sommes le vendredi 4 octobre 2024. Bonjour madame et messieurs, bienvenue dans cette session d'information au micro de Nanit Talani. Au sommaire, Washington promet une assistance technique pour les élections au Gabon. RDC, naufrage d'un bateau sur le lac Kivu, la surcharge mise en cause. Au Ghana, des centaines de jeunes protestent contre l'exploitation minière illégale et demandent des libérations. Amnesty International dénonce la répression contre journalistes et opposants au Sénégal. Épidémie de Mpox, 16 pays africains touchés, la campagne de vaccination en RDC repoussée. En magazine, retour sur un accord historique. Le Royaume-Uni reconnaît la souveraineté de Maurice sur les Chagos.
C'était considéré comme le dernier espace colonial des Britanniques en Afrique. Donc, cette victoire, cette avancée diplomatique vient mettre un terme à la décolonisation de Maurice après 56 ans d'indépendance.
La NBA rend hommage à Dikembe Mutombo alors que la nouvelle session débute, ça sera en sport. N'oubliez pas notre page économique, mais d'abord le journal. En RDC, un bateau vraisemblablement surchargé qui transportait des hommes et des marchandises sur le lac Kivu a fait naufrage hier jeudi. Une vingtaine de personnes ont perdu la vie, assurent les autorités locales. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
En fin de matinée, l'embarcation partie de Minova dans le sud Kivu, avec à son bord plusieurs centaines de passagers selon des rescapés et des témoins, a chaviré quelques centaines de mètres avant l'accostage au port Kitoukou à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Les causes du naufrage restent encore à établir. Selon un bilan encore provisoire, il y a 23 décès et 58 survivants qui ont été pris en charge dans les structures sanitaires de Goma, a déclaré Espoir Sangoua Bantea, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Une source sécuritaire au port a de son côté évoqué 28 morts. La situation est très compliquée et il est encore difficile de donner tous les détails, a expliqué cette source, ajoutant que les autorités tentent encore de déterminer le nombre total de passagers sur le bateau. La protection civile et des militaires, épaulés par des pêcheurs, ont mené des opérations de sauvetage jusqu'en fin d'après-midi. Un nombre croissant de personnes choisissent de se rendre à Goma en traversant la pointe nord du lac Kivu par bateau afin d'éviter les zones terrestres en proie à des combats opposant les forces gouvernementales au mouvement rebelle M23.
Les États-Unis ont affirmé hier leur soutien à la transition politique au Gabon où une junte a pris le pouvoir en 2023. Ils ont plaidé pour une coopération renforcée en matière de défense et réaffirmé leur engagement à promouvoir un processus politique inclusif menant à des élections libres. Washington a reconnu les efforts du Gabon vers une transition démocratique et a prévu une assistance technique pour améliorer l'administration électorale. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré le président de transition, le général Brice Oligui Nguema, qui a promis de rendre le pouvoir aux civils tout en visant la présidentielle de 2025. Au Ghana, quelques centaines de jeunes sont descendus hier dans les rues d'Accra, la capitale, pour manifester contre les activités minières illégales et demander la libération de 54 manifestations arrêtées en septembre. Les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Des manifestants portaient des bouteilles d'eau polluées provenant des rivières Praibirim pour souligner l'impact dévastateur de l'exploitation minière illégale sur l'environnement. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que nos rivières et nos plans d'eau sont empoisonnés par le mercure. L'exploitation minière illégale détruit notre environnement et notre avenir, a déclaré Henri Tagoué, l'un des organisateurs. L'exploitation minière illégale, localement appelée Galamsé, menace surtout la culture du cacao. Face à la crise économique que traverse le Ghana depuis 2022, un nombre croissant de producteurs vendent leurs terres à des mineurs illégaux. En plus de la perte des terres agricoles, les activités minières contribuent à la pollution des cours d'eau et nappes phréatiques via les produits chimiques utilisés pour l'extraction. Les 22 et 23 septembre, 54 manifestants ont été interpellés pour troubles à l'ordre public pour avoir bloqué des routes et brûlé des pneus. Les manifestants prévoient protester à nouveau aujourd'hui et demain samedi.
Un journaliste et un opposant sénégalais interrogés pour avoir mis en doute la parole du Premier ministre
ont été relâchés hier, alors que la critique enflait contre le gouvernement devant une succession de mises en cause, ont indiqué leurs avocats. Le point avec John Lindon.
Le journaliste Cheikh Yerim Sek et l'opposant Bougan Gueydani ont été entendus par des enquêteurs pour avoir contesté les propos tenus la semaine passée par le premier ministre Ousmane Sonko, décrivant la situation des comptes publics comme catastrophique. Il avait accusé le précédent gouvernement d'avoir trafiqué les chiffres. Tous les deux ont été libérés après avoir été placés en garde à vue, ont déclaré leurs avocats respectifs, Maître Babacar Cissé et Amadou Sall. Le gouvernement en place depuis avril, après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle, fait face de la part de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme à une réprobation grandissante à la suite d'une série de condamnations, placements en détention ou en garde à vue et autres convocations. Amnesty International et cinq autres organisations de la société civile ont exprimé dans un communiqué leur profonde préoccupation face aux convocations systématiques d'acteurs politiques et de journalistes. Des législatives anticipées sont prévues le 17 novembre au Sénégal. Le gouvernement n'avait pas répondu aux sollicitations de la presse hier en fin d'après-midi. La justice a par ailleurs commencé à réclamer des comptes à des responsables de l'ancien régime pour leur gestion.
866 personnes sont décédées du Mpox en Afrique depuis le début de l'année, d'après un dernier bilan hier de l'agence sanitaire Africa CDC, qui soutient que l'épidémie n'est pas sous contrôle sur le continent. Rosine Munezero nous en dit plus.
Quelque 34 297 cas ont été recensés depuis janvier à travers les 5 régions africaines, dont 38 au Ghana, où la maladie n'avait pas encore été repérée jusqu'ici, a précisé l'agence sanitaire de l'Union africaine. Cela porte à 16 le nombre de pays africains où le Mpox a été détecté, selon le CDC Afrique. Environ 2500 nouveaux cas hebdomadaires ont été recensés ces dernières semaines, a indiqué le docteur Jean Kaseya, directeur général du CDC Afrique, lors d'une conférence de presse, qui déplore également que le taux de test pour confirmer la présence de la maladie reste trop faible. Le Mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées. Le lancement de la campagne de vaccination en République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, initialement prévu mercredi, a été repoussé sine die par les autorités sanitaires congolaises. Le Rwanda a commencé à vacciner depuis le 17 septembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé son plein soutien au secrétaire général Antonio Guterres, qui a été déclaré persona non grata par Israël pour ne pas avoir immédiatement condamné des frappes iraniennes. Les 15 membres du Conseil, sans mentionner Israël, ont souligné l'importance d'une coopération productive avec le secrétaire général et ont averti que des décisions sans son implication sont contre-productives, surtout en période de tension au Moyen-Orient. L'autorité palestinienne a annoncé que 18 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Tul Karem en Cisjordanie. L'attaque a été menée par l'armée israélienne pour éliminer Zahir Abdel al-Razak, un chef local du Hamas, accusé d'avoir orchestré plusieurs attaques. Le ministère libanais de la Santé a annoncé dans la nuit d'hier que 37 personnes ont été tuées en 24 heures et 150 autres blessées dans des frappes israéliennes sur le pays. Nous pouvons éviter une guerre totale au Moyen-Orient, a déclaré le président américain Joe Biden. Je ne crois pas qu'il va y avoir une guerre totale. Je pense que nous pouvons l'éviter, mais il y a encore beaucoup à faire, a-t-il déclaré hier à la presse. L'ex-première dame américaine Melania Trump exprime son soutien au droit à l'avortement dans des mémoires à paraître. Elle affirme que le droit des femmes de choisir ce qu'elles font de leur corps est fondamental et critique les restrictions sur l'avortement. L'équipe de campagne de Kamala Harris a souligné que ses vues divergent de celles de Donald Trump. Ce dernier déclare avoir encouragé son épouse à exprimer ses opinions et a reconnu la diversité des opinions au sein de leur base politique. Kim Jong-un a déclaré que la Corée du Nord utilisera sans hésiter l'arme atomique en cas d'attaque de la part de la Corée du Sud ou des États-Unis, d'après l'agence SNENA. Il a souligné que Pyongyang recourait à tous les moyens offensifs, y compris nucléaires, si l'ennemi attaquait avec des forces armées. Voilà pour l'actualité. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre segment économique avec Eric Manirakiza.
Le Togo continue de s'affirmer comme un acteur clé en Afrique dans la création d'un environnement favorable aux affaires. Selon le rapport Business Ready 2024 de la Banque mondiale qui évalue la performance de 50 économies à travers le monde, le Togo parvient à maintenir sa place parmi les pays les plus performants. Lomé a su construire un ensemble solide de lois et de réglementations qui facilitent l'entrée et le fonctionnement des entreprises sur son territoire. L'Afrique a le plus petit parc automobile au monde et l'un des réseaux routiers les moins denses, mais ses routes tuent proportionnellement plus qu'ailleurs. En cause, infrastructures inadéquates, véhicules hors d'âge, impunité, services d'urgence inexistants. Selon le rapport 2023 de l'OMS, l'Afrique dépasse les régions Asie du Sud-Est et Pacifique Ouest en termes de décès rapportés à la population. Quelques 225 000 personnes ont été tuées sur les routes africaines en 2021, soit environ 620 par jour selon l'OMS. Plus des deux tiers des terres agricoles de la bande de Gaza ont été ravagées par la guerre en cours dans le territoire palestinien, aggravant le risque de famine de la population, selon une évaluation publiée jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO. Au 1er septembre, 67,6% des terres agricoles, soit plus de 10 000 hectares, étaient endommagées, selon ce rapport établi par le centre satellitaire de l'ONU, UNOSAT.
Merci Eric pour ces informations économiques. À présent, notre page sportive, nous invitons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Nous parlons de basketball ce matin avec le début à venir de la saison régulière ici en NBA.
Oui, les différentes équipes s'apprêtent à se lancer dans la succession de Boston, champion 2023-2024. La plupart des franchises ont commencé leurs entraînements et affichent de grandes ambitions à l'image des Sixers et leurs Camerounais, Joel Embiid. La suite avec Yini Niwa.
C'est la rentrée pour Joel Embiid, fraîchement sacré au JO de Paris, pour le pivot camerounais, leader des 76ers de Philadelphie, qui compte 7 participations au All-Star Game cette saison. Il n'est pas question de All-Star ni de All-NBA. Embiid dit vouloir arriver prêt pour les phases finales, lui qui s'est blessé au genou la saison dernière, au premier tour des playoffs, où son équipe a été stoppée. Pour moins peser sur son genou, le joueur de 2m13 a confié avoir perdu 11 à 13 kilos. Cette année, il sera épaulé par entre autres recrue le français Gershon Yabusele qui devrait apporter plus d'énergie.
L'énergie, il n'y en a jamais trop. Il faut toujours amener de l'énergie, que ce soit en défense ou en attaque, que ce soit sur une balle qui traîne ou quoi que ce soit, pouvoir sauter, pouvoir donner, on va dire, son corps à l'équipe et se battre. Voilà, essayer de combattre chaque jour, chaque soir à 200%.
Chez les Los Angeles Lakers, désormais on verra père et fils aux répétitions. LeBron James, légende du basket, 4 fois champion NBA, va attaquer à 39 ans sa 22e saison NBA et former son fils Bronny, qui fêtera ses 20 ans dimanche, le premier duo père-fils sur un même parquet de la NBA. LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers.
C'est juste de la joie, pour être honnête, de pouvoir venir travailler dur avec votre fils tous les jours et de le voir grandir. Nous nous poussons mutuellement. Il me pousse, je le pousse, nous poussons nos coéquipiers et vice-versa.
Ce que j'attends le plus, c'est de me retrouver face à face avec lui à l'entraînement. J'ai l'impression que c'est un sentiment tellement fou d'être en entraînement avec son père et d'être en compétition à un haut niveau.
Bien évidemment, l'ombre du Congolais Dikembe Mutombo, membre du panthéon du basketball américain, décédé lundi à l'âge de 58 ans, a plané dans les centres d'entraînement. Harrison Barnes, joueur de San Antonio.
Je pense que l'une des choses qui était si unique chez lui, c'était sa personnalité contagieuse et sa capacité à entrer dans une pièce et à faire sourire les gens.
LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers.
Il était à Houston et je suis allé au panier et j'ai reçu un coup de coude de Dikembe. Et si quelqu'un connaît les coups de Dikembe, il sait qu'ils ne sont pas très agréables. Il m'a fracturé le visage. Je suis allé à l'hôpital cette nuit-là et j'ai porté un masque pendant un petit moment. C'est le souvenir que j'ai de Dikembe.
That is my memory of Dikembe.
La nouvelle saison régulière 2024-2025, la 79e de la NBA, commence le 22 octobre 2024 et se termine le 13 avril 2025.
Merci Ginny.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Une trentaine de morts, une cinquantaine de survivants et une centaine de disparus. C'est le bilan d'un naufrage survenu hier matin sur les eaux du lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bateau Merdi, qui reliait la cité de Minova au sud de Kivu et la ville de Goma au nord Kivu, a coulé quelques mètres avant d'accoster. Zanem Netizaidi pour plus de détails.
Des larmes et des visages tristes, telle est l'atmosphère qui règne au port de Kitoukou, dans la ville de Goma. Un survivant comme Patrick, âgé d'une vingtaine d'années, n'en revient pas. Mais il craint pour ses proches, également passagers du bateau.
J'étais à bord avec toute ma famille, mais je ne sais pas où ils sont jusqu'à présent. Ma femme, mon bébé de 2 mois, ma belle-mère, mon petit frère et ma grande sœur étaient à bord. Je ne sais toujours pas où ils sont. Je suis sorti seul.
La route Goma-Minova n'étant plus opérationnelle en raison de la guerre entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise, les voyageurs sont contraints d'emprunter la voie lacustre avec des bateaux et pirogues souvent très chargés au risque de faire naufrage. La société civile demande la réouverture de la route pour éviter à la population un nouveau drame. Daniel Chisaganya est acteur de la société civile.
Hier mercredi, une pirogue motorisée quittant Mukwija dans les territoires de Kalehe à Chaviré. Rappelons qu'en 2019, nous avions déjà perdu une centaine de personnes. Nous demandons au gouvernement de rouvrir la route nationale numéro 2 afin que les gens aient le choix de voyager par la route ou par bateau pour éviter que les personnes obligées de prendre la voie lacustre continuent de mourir.
À ce stade, rien n'a encore été révélé sur les causes du naufrage, mais les survivants parlent des surcharges. Les témoins et les spécialistes du transport déplorent que la réglementation sur les transports lacustres ne soit toujours pas correctement appliquée. Delphin Djihababo, spécialiste du transport.
On a vu les images, on a vu que le bateau a embarqué plusieurs personnes et on a plusieurs aussi marchandises étaient embarquées. Donc il n'y a pas eu, la limite n'a pas été respectée. Alors en ces jours, en tout cas, nous sommes inconsolables et on croit vraiment que l'État, la justice doivent vraiment mener des enquêtes vraiment sérieuses pour que nous puissions plus jamais revoir ceci. Les gens voyagent, il n'y a pas de gilet de sauvetage, il n'y a rien, aucune mesure sécuritaire. Alors en tout cas, nous invitons les autorités à prendre cette affaire au sérieux.
Les services de la protection civile poursuivent les recherches pour retrouver des corps dans les profondeurs du lac Kivu. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué car les opérations de recherche sont toujours en cours. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Au Mali, dans un contexte de violence croissante et de menaces continues, les radios communautaires du Sahel jouent un rôle vital pour informer les populations locales, souvent dans des zones isolées. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, s'est rendu à Kay, situé à 580 km de la capitale malienne, pour suivre le quotidien des journalistes de 2 stations de radio. Voici le reportage de Mohamed Danioko.
Niché au cœur du grand marché de Kaï, la radio Bakoui Kaira, émettant depuis 2007, a vu son éclat s'éteindre au fil des années, entraînant dans son sillage une perte significative de son personnel. En plus de cette difficulté économique croissante, s'accompagne un défi majeur, celui de maintenir l'exercice d'un journalisme professionnel dans un contexte de crise.
La majorité de la population aujourd'hui commence à prendre une vision unique, c'est-à-dire soutenir quelque chose sans ça tu es apatride. Expressément dit ici face au Djougou.
Bien qu'il ne soit pas directement menacé par des terroristes, comme c'est le cas dans certaines parties du pays, le journaliste a été contraint d'interrompre ses émissions pour éviter des représailles.
Aujourd'hui, je peux dire, à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter l'émission parce que j'ai reçu beaucoup de menaces. Souvent, les informations que nous donnons allaient à l'encontre de l'autorité en place et surtout ses supporters. Et ce qui était notre mal, selon la source de notre mal. Donc je peux dire que même j'ai reçu des appels de menaces, pas seulement des messages, mais des appels de menaces. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, j'étais obligé d'arrêter l'émission.
À seulement 4 km de là, la radio Sahel, pionnière des stations privées de la région, fondée en 1997. Cette dernière a adopté une approche plus prudente en ce qui concerne le traitement des informations qualifiées de sensibles.
Bon, nous, on ne traitait pas ces informations-là, sauf si le DIRPA, l'information du DIRPA, nous ne diffusions ça. On traite ça et on ne diffuse pas. Ça ne vient pas de dire pas.
Cette ligne de conduite est strictement respectée au sein de cette rédaction.
On peut travailler librement comme les règles le demandent, mais pas tout dire, puisque comme toutes les autres régions, nous faisons aussi attention et nous agissons aussi en fonction des règles d'éthique et de déontologie aussi.
Bien que confrontés aux difficultés économiques et financières, les radios Bakoui Kaira et Sahel continuent d'avoir un impact majeur au sein de la communauté. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Kaï.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Un litige territorial de près de 60 ans entre le Royaume-Uni et Maurice a culminé aujourd'hui avec un accord qualifié d'historique. Londres reconnaît finalement la souveraineté mauricienne sur les Chagos, archipel stratégique de l'océan Indien, tout en s'assurant de conserver sa base militaire sur Diego Garcia en partenariat avec les États-Unis. Mais cet accord suscite déjà des réactions contrastées. Pour en parler, Jacques Aristide a joint à Richter, dans le nord de l'île Maurice, le journaliste Nad Sivaramen, directeur de publication au sein du groupe La Sentinelle Limitée.
C'est une question complexe et il faut étudier la question sous différentes coutures. Il y a une victoire diplomatique, c'est sûr, il y a une victoire de la cause chagotienne, de la cause humaine. On se souviendra que c'est un combat de plus de 40 ans, commencé dans les rues de la capitale par des femmes chagotiennes. Et souvent, c'était sous la matraque de la police. Ce sont elles les premières qui se sont élevées contre le déracinement illégal des chagotiens de l'archipel de Chagos dans les années 60. Donc, c'est clair que Maurice recouvre sa souveraineté sur l'archipel. Mais l'île principale de l'archipel, c'est-à-dire Diego Garcia, qui abrite la base militaire des Américains, restera sous le contrôle des Britanniques.
L'expulsion des Chagossiens et leur souffrance continue sont souvent décrites comme une violation des droits de l'homme. Les dirigeants mauriciens ont-ils pleinement défendu les intérêts de la communauté chagossienne dans cet accord, ou l'aspect géopolitique et stratégique a-t-il pris le pas sur les réparations humaines?
Le leader du groupe des réfugiés chagotiens à Maurice, Olivier de Bancourt, il a parlé lui aussi d'accord historique. Il a été très ému de rappeler le combat donc, des femmes chagotiennes. Il y a un sentiment mêlé parce que c'est le combat des chagotiens Mais les Sagossiens n'ont pas pu mener ce combat sans les différents gouvernements mauriciens qui se sont succédés. Donc Olivier Bancourt a déclaré que c'est un jour historique parce que les Anglais reconnaissent finalement la détresse et toute la douleur des Sagossiens qui ont été déracinés de leurs îles et qui n'ont pas pu aller se recueillir auprès de leurs ancêtres qui sont enterrés dans l'archipel. Donc il y a l'aspect humain et je crois que les Sagossiens aujourd'hui ont reconnu que le gouvernement mauricien les a tenus au courant de toutes les étapes des longues négociations qui ont eu lieu entre les Britanniques et les Mauriciens.
Face aux critiques de l'opposition britannique, l'opposition conservatrice, qui parle de capitulation du gouvernement travailliste de Keir Starmer, croyez-vous que cet accord affaiblisse la position diplomatique de Maurice à long terme, surtout en ce qui concerne l'indépendance militaire de Diego Garcia vis-à-vis des puissances occidentales?
Non, pas du tout. Je crois que l'opposition au gouvernement travailliste, c'est de l'opposition systématique, comme c'est souvent le cas dans des pays. Mais il faut regarder la plus grande cause. C'était considéré comme le dernier espace colonial des Britanniques en Afrique. Donc, cette victoire, cette avancée diplomatique vient mettre un terme à la décolonisation de Maurice après 56 ans d'indépendance.
C'était le journaliste Nad Sivaramen, directeur de publication dans le quotidien L'Express de Maurice. Le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont rendus mercredi dans les régions durement touchées par l'ouragan Helene, où plus d'un million de personnes sont toujours privées d'électricité et où le nombre de morts ne cesse de s'alourdir. Monsieur Biden a proposé d'envoyer jusqu'à 1000 soldats actifs pour soutenir l'effort de réponse. C'est un reportage d'Anita Powell. Le récit est de Rosine Munezero.
Voici ce que l'ouragan Helene a fait subir aux États de Géorgie, de Caroline du Sud et de Caroline du Nord, dans le sud-est des États-Unis, ce dernier étant une pièce maîtresse de l'élection présidentielle. Mercredi, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont rendus dans les zones touchées, en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et elle en Géorgie. Monsieur Biden a annoncé qu'il déployerait jusqu'à 1000 militaires pour aider à la reconstruction. Le président Joe Biden.
Dans un moment comme celui-ci, nous mettons la politique de côté. Du moins, nous devrions la mettre de côté. Nous sommes ici. Il n'y a pas de démocrates ou de républicains. Il n'y a que des Américains. Notre travail consiste à aider le plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible et de la manière la plus complète possible.
Madame Harris s'est rendue dans un centre d'opération d'urgence à Augusta où elle a remercié les employés.
Je suis ici pour vous remercier. Je sais que ce sont de longs jours pour vous. Je sais que ce sont des jours où les gens vous regardent dans les yeux pour être convaincus que tout va bien se passer. Parfois, vous en êtes sûr, parfois non. Mais vous donnez aux gens un niveau de confiance dans le fait qu'il y en a qui se soucient d'eux et qui travaillent 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'ils vont bien. C'est l'une des tâches les plus nobles que l'on puisse accomplir.
Les habitants et les organisations humanitaires affirment que la situation sur le terrain est sinistre. Les habitants du comté de Cook, en Géorgie, ont été durement touchés. Trevor Geer est présidente de l'association Concerned Citizens of Cook County.
La tempête elle-même a ébranlé notre communauté. De nombreuses personnes se sont retrouvées sans électricité. Le plus important, c'est qu'à la suite de tout cela, les gens perdent leur nourriture et n'ont plus accès aux produits de première nécessité.
Les familles disent qu'elles n'étaient pas prêtes. Erin Durham et Matt Van Swall vivent dans la banlieue d'Asheville, en Caroline du Nord, avec leurs trois enfants.
Nous n'étions vraiment pas préparés. Je pense que personne n'a vraiment compris l'ampleur de ce qui allait arriver. Personne ne s'est vraiment préparé.
Monsieur Biden a déclaré que le gouvernement s'engage à remettre les habitants sur pied et que le coût de la tempête pourrait atteindre des milliards de dollars, ce qui signifie que le rétablissement pourrait être long et difficile.
Et voilà, c'est tout pour le monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce journal sur voaafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et X. Mille fois merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Je suis Nanit Talani. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Kelvin Fowler était à la console. Au revoir et à très bientôt.